Les voix du livre. Une émission proposée par Fanny de Citre, de la librairie du Cyprès Jean de la Lune à Nevers, Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et Claire Garand, biographe chez mémorialiste.fr. Vous êtes bien sur BAC FM. Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Alors nous accueillerons aujourd'hui Pascal Rose, romancière, qui vient de sortir La Belle Hélène aux éditions Stock, et nous écouterons donc tout à l'heure l'interview qu'elle a eu l'amabilité de nous accorder. Mais auparavant, je voudrais vous parler d'une nouvelle voix. Et oui, parce que nous commençons l'année avec un nouveau programme dans Les Voix du Livre. Nous avons bien sûr les coups de cœur jeunesse, jeunes adultes avec Arthur Caillot, les coups de cœur adultes avec Fanny de Citre du Cyprès, mais il nous manquait quelque chose. Et pas des moindres, quelque chose d'essentiel, un peu de débat d'idées. Et oui, la littérature, c'est pour se faire plaisir, mais aussi pour réfléchir. En vérité, est-ce que réfléchir n'est pas aussi un plaisir ? Vous avez 4 heures pour répondre à cette question fondamentale. C'est donc pour parler de débat d'idées que nous accueillons à partir de ce mois-ci dans les voies du livre Clément Denuy, professeur de philosophie au lycée Raoul Follereau. Bonjour Clément.
Bonjour.
Alors nous le présenterons tout à l'heure en dernière partie de l'émission, mais attention, vous allez voir, c'est de la philo qui décoiffe, hein, comme il va nous le montrer tout à l'heure. Mais nous allons commencer par la littérature jeunesse, qui elle aussi fait plaisir et réfléchir à la fois. Alors Arthur, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour commencer cette nouvelle année ? Je crois qu'il y a de la matière.
Bon, avant, j'en profite moi aussi pour souhaiter une bonne année aux auditeurs.
Aux éditeurs aussi d'ailleurs. dire bonne année à tous, aux lecteurs, aux auditeurs, aux auteurs. Donc oui Arthur.
Et du coup, qui dit nouvelle année, dit rentrée littéraire de janvier. Et oui, grâce à mon blog, j'ai pu recevoir plusieurs romans en avant-première et j'ai sélectionné pour vous mes 3 préférés. Paris pour percer, un livre sur le rap et le hip-hop qui dénonce l'injustice. Une fille de perdu, c'est une fille de perdu, qui est un roman bouleversant et très sensible.
Une fille de perdu, c'est une fille de perdu. Oui, c'est d'habitude, on dit c'est 10 de retrouver, mais là, c'est juste une de perdue. Oui.
Exactement. Et enfin, les chroniques de Pridin, une aventure haletante et originale.
Alors, bah, Paris. Donc, ça a l'air très. Ça démarre sur les chapeaux de roue, cette année.
Hein. Des très bons livres pour cette rentrée littéraire.
Oui, ça a dû être difficile d'en choisir que 3. Hein.
Oui, parce qu'il y en avait plein. Donc, j'ai choisi mes préférés.
Donc, les autres sont à. Enfin, certains sont à retrouver sur votre
site.
Blog, votre site et sur Instagram. Alors, allons-y pour les trois gagnants. Le tiercé Alors, gagnant de début 2020.
Paris pour percer, c'est le nouveau roman d'Angie Thomas. Autrice qui a eu un succès fou avec son roman The Hate U Give, qui a même été adapté au cinéma en janvier 2019. Dans son nouveau livre, nous suivons Brie, une jeune fille de 16 ans qui vit dans un ghetto aux États-Unis.
Oui, c'est chaud, ça commence fort. Hein. Oui.
Elle n'a pas toujours la vie très facile et son seul échappatoire à tout ça, c'est le rap. Depuis très longtemps, Brie adore cette musique qui devient peu à peu sa musique. Elle participe à des battles de rap et perce au fur et à mesure. Elle va même réussir à passer à la radio. Seulement, c'est là que tout dérape. Ses paroles sont mal interprétées par les gens et on veut lui faire la peau.
Ah oui, ouais, bah d'accord. Oula, oui, ça dérape en effet. J'espère que ça dérape. C'est un dérapage contrôlé ou moyennement ?
Bah, justement, on se demande si Brie, elle réussira à montrer qu'elle est quelqu'un d'autre et non une racaille comme le prétend tout le monde.
Une racaille.
Oui, un bouquin qui m'a fait l'effet d'une claque. Les mots sont justes et puissants. Malgré ses 500 pages, et oui, c'est une sacrée brique.
Ah oui, quand même. Ouf.
Ouais. C'est une sacrée brique. Je l'ai lu très rapidement. Ce qui est génial, c'est que l'autrice arrive à traiter plein de thèmes à la fois. L'intolérance, le racisme, l'homophobie, le sexisme. Bref, un roman nécessaire.
Bah dis donc, il y a effectivement beaucoup de sujets abordés et beaucoup de
Et ce qui est très bien,
aussi.
C'est qu'on se perd même pas.
Non, au contraire, on se trouve, j'ai bien compris. On trouve une certaine force de résistance contre tous ces ismes négatifs que vous venez de d'énumérer. Donc c'est quelque chose qui donne vraiment envie de se battre, j'imagine,
ah,
ce roman-là.
Ah oui, ça donne la foi.
Eh bah, dis donc, rien que ça.
Bon, après ce roman super puissant, pas facile d'enchaîner avec un autre.
Non, ça c'est sûr.
Enfin bon, avec une fille de perdu, c'est une fille de perdu de Claire Renaud, c'est un jeu d'enfant. Car oui, cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre qui m'a ravagé comme un tremblement de terre, puis ensuite.
Ah, oui. Oh, dis donc. Oui. Après le rap qui donne la foi, nous avons le tremblement de terre qui vous ravage, puis ensuite.
Exactement.
Oui.
Alors, Marcel, c'est un jeune homme de seconde, et il sort depuis plus de 6 mois avec sa belle et douce Aurélia. Sauf que voilà, un jour elle lui apporte une lettre lui annonçant qu'elle le quitte car elle s'ennuie avec lui. Marcel est dévasté. Comment est-ce possible ? Comment va-t-il réussir à remonter la pente ?
C'est affreux.
Comment peut-il accepter ça ? Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour surmonter son chagrin et ne pas se laisser bouffer par sa mère qui sombre de plus en plus dans l'alcoolisme.
Oh, c'est pas très gay, hein.
Voilà, ouais, après...
Donc, c'est des personnages forts que vous choisissez, hein.
Ah oui,
des personnages qui se battent...
C'est pas moi qui les choisis, c'est les auteurs,
mais... Oui, mais ceux que vous choisissez de nous présenter.
C'est ça. Bah, le dernier, c'est plus léger, on va dire.
Ah, vous avez gardé le léger pour la fin.
Oui. Donc, après ce petit résumé très joyeux, vous devez comprendre pourquoi ce roman m'a profondément touché, hein.
Oui, le séisme puis ensuite, en effet.
On ressent toutes les émotions comme si on y était, et c'est superbe. Une pépite de la rentrée littéraire. Bon, si vous voulez bien, maintenant passons au dernier roman, Les Chroniques de Pridin. Publié pour la première fois en 1964, il vient seulement d'être traduit en France, et je ne comprends pas que ce n'ait pas été fait plus tôt.
Oui, c'est vrai que c'est curieux.
Je sais pas, c'est bizarre. En plus, il a eu beaucoup de prix en Angleterre, aux États-Unis, et je sais pas pourquoi il n'a pas été traduit. Et Taram, c'est un jeune homme qui vit dans le royaume de Pridin. C'est un apprenti porcher qui doit s'occuper de N. Wen, une truie prophète.
Effectivement, là, on est dans un registre plus léger. Oui. J'aime beaucoup l'idée de la truie prophète.
Moi aussi. Ça vous fait rire.
Oui.
Seulement, un beau jour, elle va s'enfuir. Et Taram va partir à sa recherche. Sur sa route, il va devoir faire face à de nombreux obstacles. D'abord, Araun et ses sbires, un araleur, une princesse machiavélique. Mais il va aussi faire de maintes rencontres qui pourraient bien l'aider. Arrivera-t-il à retrouver la truie à temps?
Ça, c'est de l'enjeu, mais alors puissant.
Oui.
Je veux dire, à côté, Clément, la démocratie...
Je rivalise pas.
Ouais. Du coup, comme vous avez pu le voir, c'est une aventure loufoque et en même temps géniale, car notre imagination peut fonctionner à plein régime.
Ah, ça, c'est sûr.
Et je vous l'annonce tout de suite, il y aura 5 tomes et ils se répartiront tous dans l'année. Je vous le dis, moi, ça va envoyer du lourd.
Oui, ça va envoyer du lourd. Mais alors, moi, j'ai une question toute bête. Comment la truie fait-elle pour prophétiser ? Elle parle ?
Oui.
Ah, c'est une truie qui parle, d'accord.
Incroyable.
Non, parce que l'espace d'une seconde,
mais
je me suis
demandé... Mais elle parle que quand elle récite des prophéties.
D'accord. Donc voilà. Oui, il faudra que je jette un œil là-dessus quand même, parce que ça me plaît beaucoup cette idée.
C'est très drôle. Bon, eh bien, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi ma sélection. Et vous pouvez venir me dire ce que vous en avez pensé sur mes comptes Instagram et Facebook, l'ado accro au livre. Sur ce, à bientôt et encore bonne année.
Eh bien, merci beaucoup Arthur pour toutes ces suggestions qui sont quand même très variées. J'avoue que j'ai un petit faible pour la truie prophète. Et j'invite bien sûr les auditeurs à aller consulter vos comptes Facebook et Instagram, donc l'ado accro au livre, sur lesquels ils trouveront bien sûr d'autres suggestions dans tous les genres. Parce que là, vraiment, sur la rentrée littéraire de janvier qui était assez dense, vous avez dû faire une sélection un peu drastique, et il y a quand même beaucoup d'autres
romans.
Oui, il
y a un panel incroyable de choix, il y en a plein qui sont sortis, il y en a qui sortent encore en février, en mars, donc vous verrez bien les prochains mois ce que je vais présenter.
D'accord, donc pour les accros au livre, justement, je crois qu'il y a de la matière. Alors après des romans aussi attachants et aussi surprenants, nous allons faire une première pause musicale qui va nous donner un petit avant-goût de l'interview de Pascal Rose. Alors, bien sûr, il s'agit d'un extrait de La Belle Hélène d'Offenbach, l'ouverture de La Belle Hélène d'Offenbach, puisque le titre du roman de Pascal Rose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est La Belle Hélène aux éditions Stock. Venus, C'était donc La Belle Hélène, un extrait de l'opéra d'Offenbach, un air encore très connu. Et vous êtes bien sur Les Voix du Livre, Bac FM, l'émission consacrée à tous les livres, et spécialement aujourd'hui à La Belle Hélène de Pascal Rose. Pascal Rose, que j'ai eu le plaisir d'interviewer récemment. Pascal Rose, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ouvrir ce début d'année dans les Voies du Livre. Alors, vous êtes romancière, nouvelliste, auteur d'une douzaine de romans, dont Le Chasseur Zéro, qui a obtenu le prix Goncourt en 1996. Et vous êtes membre du jury du prix Médicis. Et surtout, eh bien, vous venez de publier, eh bien, il y a quelques jours, un nouveau roman très attendu aux éditions Stock. La Belle Hélène. La Belle Hélène, donc, c'est Hélène Bourguignon, l'héroïne de ce roman. Elle est professeure à Sciences Po. Elle fait travailler ses étudiants sur Brötigam, Tchekhov ou encore Musil. Alors, c'est un personnage...
Enfin, professeur est un bien grand mot.
Oui.
En fait, elle anime un atelier de lecture avec un groupe d'étudiants. Voilà. Professeur... Elle serait confuse qu'on l'appelle professeur Hélène.
C'est un personnage donc très très réel puisque vous dites qu'elle serait confuse. C'est un personnage étonnant d'ailleurs, plein de vie, qui croit avoir renoncé à l'amour, mais qui finalement, enfin, je veux pas déflorer le roman, mais d'où vous est venue l'idée de ce personnage féminin très très attachant et justement présenté dans toute sa complexité? Est-ce qu'il y a un peu de vous-même dans ce personnage ou pas du tout?
Bah, oui, vous savez, c'est difficile de parler sans s'impliquer soi-même. Et il se trouve que j'ai effectivement, l'idée de ce roman m'est venue parce que j'ai pendant 3 ans animé à Sciences Po, à la demande de l'équipe de la scolarité de Sciences Po, un atelier de lecture-écriture. Alors, les étudiants lisaient et écrivaient. Donc, je suis partie de cette expérience qui m'a beaucoup intéressée et j'ai simplement modifié un petit peu par rapport à moi. C'est pas du tout un copier-coller quand même de ce que j'ai fait là-bas. J'ai fait la chose qui m'a le plus intéressée, c'est-à-dire j'ai centré sur la lecture. Qu'est-ce que c'est que lire dans le cadre d'études? Et au-delà de cela, qu'est-ce que c'est que lire pour quelqu'un? C'est ce que j'ai essayé de passer aux étudiants que j'avais en face de moi. Et je me suis dit que j'avais envie de l'écrire, ça, pour toucher encore un plus grand nombre de gens.
Et justement, c'était une idée assez originale que d'imaginer cet atelier de lecture-écriture. Souvent, on fait soit l'un, soit l'autre. Mais là, c'était les deux. Et c'est surtout la partie lecture qui vous a paru la plus intéressante à approfondir dans le cadre d'une fiction.
Oui. Disons que dans un premier lieu, c'est ce qui me paraît le plus important, l'expérience de la lecture. c'est une expérience commune, partagée. Parfois, on a l'impression qu'elle se perd, d'ailleurs, ce goût de la lecture, il se perd parce que, bon, le monde dans lequel nous vivons nous oblige à aller plus vite, à avoir une attention dispersée. Donc, la lecture, elle demande du temps, de la concentration, et on a peur que cet art se perde.
Oui, donc, ça demande de l'imagination aussi, et c'est vrai qu'il faut prendre le temps
plus,
d'imaginer.
En plus, il faut s'impliquer dans la lecture, et il faut prendre le temps aussi d'imaginer, effectivement. C'est ça que j'avais envie de dire avant tout, la lecture, l'importance de la lecture.
Alors voilà. Justement, vous mêlez habilement dans ce roman la vie, la vraie vie et la littérature dans ce roman multifacette.
Oui.
Est-ce que pour vous, comme pour Proust, la vraie vie, c'est la littérature?
Ah non. Non, pas du tout. Non. Non, il y a une ambiguïté quand même là. Non, la vraie vie, elle doit nourrir la lecture. Et la lecture, elle est aussi nourrie de la vraie vie. Et pareil pour l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture n'est pas séparée de la vie. C'est une écriture qui ne chercherait pas à dire le vrai de la vie, qui se contenterait, par exemple, je ne sais pas, comme là, vous savez, tout ce courant qu'on a appelé l'art pour l'art, pour moi, c'est quelque chose dont je me détourne.
Mais c'est vrai que vous avez écrit, par exemple, Lettres d'été ou Passage de l'amour, qui sont des œuvres et des textes inspirés de votre vie, de votre expérience de vie, mais avec un recul littéraire.
Oui. Oui.
Donc c'est pour vous il y a un lien mais pas.
C'est le temps de la réflexion et puis le temps de trouver la formulation la plus juste. En fait, quand j'écris, je mets une phrase, je la relis, je la corrige jusqu'à découvrir quelque chose. Ce que j'écris dans un premier mouvement, c'est bon ce. Ce qui me vient peut-être par rapport à une expérience vécue. Et au final, il y a une transmutation qui s'est faite, qui est due à une sorte de condensation, de recul, d'envie de donner aussi, de trouver mieux, d'aller plus loin que l'expérience directe.
Oui, c'est très alchimique
tout à fait.
Manière d'écrire.
Et quand on a trouvé une formulation qui nous satisfait, j'imagine que celui qui la lit après peut la redéployer à partir de sa propre expérience, de son propre regard.
Oui, donc c'est un jeu entre le lecteur et l'auteur pour vous.
Oui, si on veut un jeu profond, mais le jeu c'est très souvent
un
profond.
Jeu sérieux.
Un jeu sérieux, voilà, tout à fait.
Mais c'est intéressant que vous parliez de votre écriture parce que justement, dans ce roman, dans La Belle Hélène, vous écrivez d'une manière à la fois très précise, mais aussi très fluide. Et on suit vraiment les pensées des personnages. Parfois, on est au bord du flux de conscience, ça retient. Et je me souviens que vous aviez dit dans une interview, d'ailleurs, c'était pour Passage de l'amour, je crois, ça m'avait frappé, cette image que vous aviez donnée, que pour vous, les phrases que vous écriviez étaient comme des petites pierres lancées dans l'eau qui créaient des ondes chez
absolument.
Le lecteur. Et dans
absolument.
Ce roman, quel choix est-ce que vous avez fait, justement, pour travailler cette écriture et pour pouvoir dire ce que vous aviez à dire, pour trouver ce que vous étiez en train de chercher. Quel travail vous avez fait?
Je ne sais pas. En tout cas, vous avez employé une expression qui me parle tout à fait, c'est celle de flux de conscience. En fait, le roman est structuré par quatre cours qui concernent quatre nouvelles que les étudiants vont lire avec Hélène Bourguignon. La situation du cours est dans le livre. Le professeur en face du groupe d'étudiants avec le texte. Donc il y a un travail à la fois sur le texte, ce que nous dit le texte, et il y a un travail sur ce que ce texte éveille dans la personne de l'étudiant, de la professeure, qui est en train de... Vous voyez, j'emploie le mot professeur.
Oui. Désolée.
Oui. Qui est en train de faire le cours. Donc, le flux de conscience mélange ce qu'elle pense pendant qu'elle fait le cours, ce qu'elle pense du texte, ce qu'elle pense des étudiants, de ce qu'ils disent, et ce qui affleure de sa propre vie à elle. Donc il y a quelque chose effectivement de fluide qui mélange les trois niveaux dans l'écriture. Je me suis appliquée à faire quelque chose qui passe de façon la plus imperceptible possible d'un niveau à l'autre.
Et ça fonctionne, hein. Je le dis pour les auditeurs parce qu'ils doivent se dire, mais ça doit être bien compliqué cette affaire, mais pas du tout.
Non, ça vient tout seul
oui,
en fait.
C'est exactement, enfin, ça vient tout seul. Pour le lecteur, ça, c'est parfaitement, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas d'accroc. Mais justement, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle a fait? D'où ma question. C'est pour ça
oui,
que...
Parce
que
c'est... j'ai beaucoup travaillé.
Oui.
Que j'ai... En fait, pour être tout à fait sincère, le premier chapitre, qui est le cours que Hélène fait sur Brautigan,
oui.
Richard Brautigan, qui est donc un auteur des années 60s, un auteur américain qui a été un hippie, si on veut, mais surtout un très grand poète, et mm-hmm. qui a eu un succès tout à fait inattendu, et puis qui est maintenant oublié. Donc, c'est un cours que j'ai réellement fait, mm-hmm. et pendant que je faisais ce cours, tout d'un coup, j'ai vu le regard des étudiants braqués tous vers moi et j'ai eu l'impression qu'ils pensaient, mais elle est folle, cette chose pareille. Et or, en fait, l'héroïne de la nouvelle, c'est une sorcière. Et je me suis dit, mais ils pensent que la sorcière, c'est moi.
Vous croyez ?
Ça a été tellement fort comme sensation qu'en rentrant à la maison le soir, je me suis dit, ça, c'est un sujet. Et j'ai commencé à écrire et le premier chapitre m'a été presque donné dans cette intuition-là. Et après, j'ai dû travailler fort pour écrire les autres.
Ouais.
Mais le déclencheur, il est vraiment une situation réelle.
Ah oui, ben effectivement, c'était assez marquant. Donc, effectivement, comme vous le disiez, c'est une conjonction entre un auteur donc, dont vous étiez lectrice
oui.
et une écriture que vous avez voulu donner. C'est ce que vous expliquiez tout à
oui.
l'heure. Mais ça veut donc dire que pour vous, pour être un écrivain, il faut avoir beaucoup lu.
Ah, oh, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être écrivain si on ne lit pas. Il faut commencer par lire, lire, lire et tout le temps lire. Lire et relire.
Oui.
En fait, comme je le dis, je crois quelque part, peut-être simplement en quatrième de couverture, c'est la vie éclaire la lecture et la lecture éclaire la vie.
Mm-hmm.
Apprendre à lire, c'est aussi apprendre à déchiffrer le réel dans lequel nous sommes plongés.
Tout à fait.
Il y a des signes dans un texte. Et si je suis capable de repérer ces signes qui veulent me dire quelque chose, j'apprends le déchiffrage. Et ce déchiffrage, c'est pareil dans la vie. Les gens nous font des signes, les objets nous font des signes, le temps qui fait nous fait des signes. Et si on ne s'y arrête pas pour y faire attention, on passe à côté de l'intérêt de la vie, quoi. On traverse sans voir.
Sans rien voir, oui, un peu en aveugle.
Sans rien voir. Et lire, c'est voir aussi.
Et apprendre
le texte,
à voir.
La surface
oui.
du texte est pleine d'indices. Et si je ne fais pas attention à repérer ces indices, je lis trop vite, quoi, et je perds la moitié du texte.
Oui, vous restez en surface si vous lisez trop vite. C'est ça que.
C'est ça.
Dire.
C'est
oui.
très curieux parce qu'il faut à la fois bien regarder la surface parce que tout est aussi dans la surface. Mais
oui.
il faut déchiffrer ce qui, dans la surface, est un indice de profondeur. Elle essaye d'expliquer à ses étudiants que s'ils vont directement au sens, les étudiants, sans faire attention au grain de la surface, mm-hmm. ils vont passer à côté, justement, du sens.
À côté de
Parce
l'essentiel.
Parce que le sens, ils vont aller au sens qu'ils croient déchiffrer, mm-hmm. au sens général, quoi. Alors qu'il y a un sens bien précis, bien particulier dans ce qu'a voulu dire l'auteur.
Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut relire. Précisément parce que parfois, on
oui.
n'a pas tout vu la première
bien
fois.
Sûr,
même
bien
souvent,
sûr.
D'ailleurs.
C'est... Il faut relire. Il faut relire. Oui. Surtout, attendez, il faut relire les grands et beaux textes.
oui.
Les textes qui en valent la peine. Or là, ils étudient du Tchekhov, du Buzzati,
oui.
du Yasmina Reza et du Richard Brautigan. Donc, quatre grands auteurs qui méritent d'être relus. Il faut des auteurs qui méritent d'être relus,
ah, bah,
bien
oui.
sûr.
Vous avez mentionné ces différents écrivains, Yasmina Reza, Tchekhov, etc. Est-ce que pour vous, ce sont des écrivains qui vous inspirent, ce sont des modèles d'écriture ou c'est plutôt des guides dans votre appréhension du réel, donc quelque chose qui n'est pas forcément directement littéraire, mais peut-être plus indirectement
Oui, les deux, c'est quelque chose qui m'inspire et c'est quelque chose qui m'éclaire, ça c'est certain. Les différentes époques de notre vie nous rapprochent d'auteurs qui ne sont pas toujours les mêmes. Et en ce moment, et avec ce livre, je me suis sentie très très proche de Tchekhov, mais vraiment très proche.
Plus que vous ne l'aviez jamais été.
Plus que je n'avais jamais été. J'adore la littérature russe, celle du XXe, mais beaucoup celle du XIXe siècle. Et j'ai énormément lu Tolstoï, Dostoïevski, Gogol et Tchekhov aussi. Mais j'étais plus proche du théâtre de Tchekhov, parce qu'à un moment de ma vie, j'ai été comédienne. Et là, les nouvelles, je les avais lues, mais je les ai relues dernièrement, ainsi que sa correspondance. Et c'est un art de vivre et un art d'écrire. Vraiment.
Les deux
vraiment,
vont de pair.
Très profond. Et genre, si mon livre, La Belle Hélène, pouvait inciter les gens à lire Tchekhov, je m'estimerais très heureuse.
Ah, je pense que oui. Parce que la manière dont, et pas seulement Tchekhov, en fait, quand vous parlez quand l'héroïne, pardon, évoque les auteurs et les réactions suscitées, et que justement on rentre dans son flux de conscience personnelle et avec toutes ces interférences, forcément, on a envie de relire ou de lire, si on ne l'a pas encore fait, les textes qui la mettent dans cet état, forcément.
Ben, je vous remercie de me dire ça.
Ça fonctionne, je vous rassure. Si c'était une inquiétude, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, votre roman se déroule quand même aussi à d'autres endroits, puisque vous allez, l'héroïne, donc ça c'est entre Paris, mais aussi la Corse et la Bourgogne. Est-ce que les lieux ont pour vous une importance dans l'écriture?
Énorme. En fait, le roman, c'est aussi un mois dans la vie d'une femme, parce qu'en fait, elle fait quatre cours par semaine.
Tout à fait, oui.
Donc, le roman se déroule entre le début du mois de mai 2018 et la fin du mois de mai 2018.
Avec ses voyages, donc, aussi.
Avec ses voyages, en tout cas, celui pour la Corse, et puis même celui pour la Bourgogne. La Bourgogne, c'est la région de sa naissance, de son enfance. Bon, l'enfance, on sait à quel point c'est fondateur pour tout un chacun. Et puis, la Corse est liée à l'avenir, je dirais. Elle fait une rencontre d'un homme, cette femme qui a déjà 64 ans, qui n'a plus trop envie de se lancer dans des expériences, amoureuses, parce qu'elle est veuve, elle est deux fois veuve d'ailleurs. Il se trouve que tout d'un coup,
quelque chose arrive.
Fait que une ouverture apparaît à l'horizon
à laquelle elle ne s'attendait plus.
De s'y jeter, voilà.
Tout à fait.
Disons les choses ainsi.
Et tout à fait, parce qu'il faut pas non plus trop en dire. Mais c'est un personnage d'une grande complexité, en fait, parce qu'on l'aperçoit sous différentes facettes. Et justement, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que quand elle n'est pas dans les mêmes endroits, enfin quand elle voyage, elle a une autre vision aussi, et ça apporte un nouvel éclairage sur la personnalité de cette femme qui se dessine, qui se modèle. Au début, on a une dimension, deux dimensions, et à la fin, on est vraiment complètement en trois dimensions sur ce personnage qu'on finit par connaître. Et quand vous disiez tout à l'heure, elle aurait été confuse quand on l'appelle professeur. À la fin, on la connaît. À la fin, on pourrait lui serrer la main ou lui offrir un thé. parce qu'elle est devenue réelle. Donc c'est la Belle Hélène, quoi. C'est un roman très solaire, finalement.
Oui, puis il y a une côté. Alors si je l'ai appelé La Belle Hélène, évidemment, certains, ceux qui connaissent, penseront à La Belle Hélène d'Offenbach, évidemment. Mais si j'ai choisi ce titre, c'est en clin d'œil à Offenbach, c'est parce qu'il y a dans le livre de l'humour et un regard un tout petit peu parodique sur le personnage. Même si on la connaît, si on sent ses émotions, je le souhaite de tout cœur, il y a un regard amusé de l'auteur, donc Pascal Rose, sur ce personnage, La Belle Hélène. Comme Offenbach a un regard, alors lui encore plus parodique, bien sûr. Sur l'Hélène de Troie. Mais c'est une envie de faire sourire le lecteur, et de l'amuser et de le rendre joyeux. Voilà.
Eh bien, ça fonctionne.
Une envie de rendre joyeux le lecteur.
Mais il y a une volonté de vie, un plaisir de vie, en fait.
Oui.
Et ça fonctionne très, très bien. Il y a ce recul, justement, vis-à-vis de ce personnage. Donc, nous allons malheureusement devoir nous arrêter maintenant. Et c'est bien dommage. Mais moi, j'incite les auditeurs, à découvrir ce personnage par son flux de conscience, mais aussi par toutes ces aventures, parce que ce sont quand même des aventures. Et Pascal Rose, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour Les Voix du Livre. Et je conseille à tous les auditeurs de plonger dans cet incroyable morceau de vie, la vraie vie, entre l'auteur et le lecteur. Je vous remercie encore.
Merci à vous.
Voilà, c'était donc Pascal Rose dans Les Voix du Livre et on se retrouve juste après la deuxième pause musicale pour les coups de cœur de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune et pour retrouver notre nouvelle voix pour le débat d'idées. Donc voici San Francisco de Scott McKenzie pour rester dans l'ambiance du roman de Pascal Rose.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle
C'était donc San Francisco de Scott McKenzie, une musique qui nous entraîne dans le sillage de La Belle Hélène de Pascal Rose. Et oui, parce que c'est ce que fredonne le personnage du roman, Hélène Bourguignon, quand elle va donner ses cours à Sciences Po. Sur la route, elle fredonne du Scott McKenzie. Donc c'est une chanson qui a une grande importance dans le roman. Mais les Voix du Livre, donc sur Bac FM, ont d'autres propositions à vous faire. Des propositions nouvelles, puisque nous avons notre nouvelle voix, Clément Denuit, qui a quelque chose à nous présenter. Mais avant que vous n'entriez dans le vif du sujet, Clément, je voudrais dire quelques mots de cette nouvelle voix. Vous êtes donc professeur de philosophie au lycée Raoul Follereau. Et vous êtes aussi, avec d'autres, l'instigateur des cours de philosophie gratuits dispensés à Nevers dans le cadre de l'Université populaire qui est organisée par l'association Philosophie à Nevers.
Oui, c'est ça.
Et donc, l'association Philosophie à Nevers propose ses cours, c'est tous les mois ?
C'est tous les mardis soirs, de 18h30 à 20h30, et c'est à l'espace Stéphane Hessel, à l'ESGO.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit, oui,
très important à dire, parce que la philosophie gratuite, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas toujours. Donc, vous venez désormais présenter chaque mois un essai en sciences humaines pour nous faire réfléchir au monde comme il tourne ou ne tourne pas d'ailleurs. Et vous avez choisi de commencer directement dans le dur. parce qu'il s'agit d'une lecture originale qui va nous réveiller un petit peu le cerveau.
Oui, c'est un ouvrage de sciences politiques qui est très documenté, qui est assez historique. Alors, donc je voudrais vous parler et vous recommander par la même occasion la lecture d'un livre de Francis Dupuy-Déry qui est intitulé très sobrement « Démocratie » et sous-titré « Histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France » et c'est paru aux éditions Luxe. Pour contextualiser un petit peu pour quelles raisons j'ai choisi cet ouvrage en particulier, l'espace politique et médiatique est saturé par ce mot démocratie, alors que ce qu'il désigne est peut-être absent ou en partie absent de nos républiques. Tels manifestants réclament plus de démocratie. On se souvient par exemple des Gilets jaunes qui réclamaient et réclament toujours le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et de l'autre côté, les autorités disent défendre et protéger la démocratie en réprimant la foule des manifestants qui réclament la démocratie. Alors on pourrait dire de la démocratie actuellement ce que Paul Valéry disait de la liberté, autrement dit que c'est un mot ou une notion qui a plus de valeur que de sens. Donc c'est devenu, on va dire, un peu un mot magique ou un concept opératoire qui ne veut plus dire grand-chose, mais produit des effets de sens sur l'auditoire. C'est Marat, le révolutionnaire, qui l'avait bien compris avec cette formule. Il disait « Les hommes, c'est comme les lapins, ça s'attrape par les oreilles ». Donc le livre de François Dupuy-Déry arrive donc à temps. Dupuy-Déry est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et de tendance anarchiste. Et il défend donc une démocratie directe. C'est à partir de cet angle-là, effectivement, qu'il peut relativiser l'importance qu'on...
Donc directe, c'est-à-dire une démocratie sans intermédiaire, voilà, sans représentant du peuple.
Voilà. Il prend le terme démocratie au sens étymologique, c'est-à-dire le pouvoir au démos, le pouvoir du peuple. Et le démos, chez les Grecs, excusez-moi pour cette expression, c'est le tout venant, c'est n'importe qui.
C'est quand même des citoyens athéniens.
Oui.
C'est pas des techs ni des périèques, c'est pas des femmes non plus.
Dans la réalité
de la. Oui. Donc c'est pas
tout à fait. Ça exclut énormément de monde.
Non, je pinaille.
Dans la réalité de la pratique athénienne, effectivement, ça exclut beaucoup de monde. Mais le mot démos renvoie ce peuple. Donc il défend cette démocratie directe, effectivement. C'est-à-dire des assemblées populaires à la place des régimes parlementaires représentatifs qui correspondent davantage aux républiques dans lesquelles nous vivons. Le livre de Dupuy-Déry, qui était originellement une thèse de doctorat intitulée en anglais, alors je ne résiste pas au ridicule de vous le dire en anglais, The Political Power of Words, Democracy and Political Strategies in the United States and France.
Non, donc, mais si vous le disiez avec l'accent anglais, aucun Français ne vous comprendrait, donc c'est très bien.
Voilà, c'est bien. Et il part d'un constat, cet auteur. Le constat suivant, surprenant, que les pères fondateurs de la démocratie aux États-Unis et en France, il limite son analyse à ces deux pays, ou tout du moins donc ceux qui sont considérés comme tels, comme les pères fondateurs de la démocratie, pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis par exemple, et pendant la Révolution française, c'est-à-dire, pour donner des noms, George Washington, John Adams, Robespierre ou Danton, ces pères fondateurs ne se disaient pas démocrates et même dénigraient le terme et dénigrer ceux qui s'en réclamaient.
Donc,
démocrate, en effet, c'était prendre la défense des pauvres et du petit peuple, or ce dernier serait irrationnel, soumis à ses passions, ou incapable de reconnaître le véritable intérêt de la nation. Donc, être démocrate, c'est livrer la nation au chaos. Alors, la question directrice pour aller à l'essentiel de ce livre est la suivante. À quel moment et pourquoi le mot démocratie change de sens et ne décrit plus des assemblées populaires, mais un régime parlementaire électoral? Et je vous donne la réponse.
Oh, chouette. Il n'y a plus de suspense, mais c'est pas grave.
Je tue le suspense, mais elle est tellement générale. Après, il faut aller regarder dans le détail. Francis Dupuy-Déry situe ce moment aux alentours des années 1830, lorsqu'au niveau des élections, et aux États-Unis, c'est Andrew Jackson qui sera le premier à le faire, des candidats vont se dire démocrates, car cela, tout simplement, leur permet de se présenter comme les défenseurs des petits contre l'élite, et c'est un bon argument, on va dire, électoral.
Ah bah oui, ça, c'est sûr. Il y a plus de petits que d'élites. Donc forcément, électoralement, c'est plus intéressant.
Voilà. Si le peuple est plus nombreux que l'élite, effectivement, si on lui donne le pouvoir, forcément, ce sont les intérêts du peuple qui vont l'avoir sur ceux du petit nombre. Donc aussi, on l'aura compris, notre auteur est très critique vis-à-vis de nos républiques actuelles qui se disent démocratiques sans véritablement l'être. Alors pourquoi ? Parce que le peuple, précisément, n'a pas le pouvoir, n'est pas souverain. Cette souveraineté est déléguée par le vote. Et voter ne suffit pas pour exercer sa souveraineté. Il faudrait que le peuple, le démos, donc, participe au processus de prise de décision. Et certes, ce n'est pas simple, ça nécessite de l'éducation et il n'idéalise pas cette pratique non plus. Alors simplement pour avoir un petit florilège de manière dont on pourrait caractériser du coup nos républiques représentatives, on pourrait les nommer de la manière suivante, des fois c'est extrêmement critique. Hein. Par exemple, monarchie représentative, monarchie démocratique. Alors bon, ça semble contradictoire, un petit peu comme la pluie sèche, c'est une expression que reprend Dupuy-Déry. Aristocratie élective, aristocratie démocratique.
Et est-ce qu'il parle d'anarchie démocratique ? Non, il n'y a pas ça. Hein.
Non, c'est une identité, c'est la même chose, ce serait redondant. Ouais. Donc, comme nous sommes sur une radio lycéenne, je relaie une proposition de Dupuy-Déry pour promouvoir la démocratie directe, ne plus élire de délégués de classe en début d'année, mais laisser le temps régulièrement aux élèves de régler entre eux, pendant des assemblées, les problèmes qui se posent au groupe. Et si de temps en temps, il faut déléguer quelqu'un, avec un mandat, un élève, avec un mandat impératif, mais que ceux-ci ne se déchargent pas de leur droit à décider. Ce sera aussi un bon moyen, dès l'école, de surmonter la glossophobie, c'est-à-dire la peur de prendre la parole en public, capacité indispensable en démocratie. Parole, donc, que je ne monopolise pas plus longtemps, si ce n'est pour rappeler le titre du livre « Démocratie » et son auteur, Francis Dupuy-Déry.
Eh bien, oui, en effet, voilà une suggestion de lecture qui va faire s'agiter nos petites cellules grises. Ça leur fait du bien, sinon elles s'encroûtent. Donc, Fanny
c'est
qui
un
se
peu
disjute.
Dur, là, de... après.
Non, mais il n'y a pas que la démocratie dans la vie. Cela dit, l'un des romans que vous allez nous présenter peut rappeler un petit peu le film Captain Fantastic.
Oui.
Qui est une forme, alors peut-être pas de démocratie, mais de vie libre dans la nature.
C'est vrai. Il y a un petit lien, je
fais ce que je peux pour vous
bien
aider.
Jouer. Oui, donc là, on parle du livre de Fiona Moseley, qui s'appelle Helmet, qui est sorti à l'occasion de la rentrée littéraire d'hiver. C'est son premier roman, et c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour les premiers romans, parce que je trouve ça assez fascinant. Ouais. Par quoi on va commencer sa carrière d'écrivain, quel thème on va aborder.
Est-ce qu'on va parler de soi ou est-ce qu'on va parler d'autre
voilà.
chose
Et c'est un livre qui est sorti chez les éditions Joël Losfeld, que personnellement je ne connaissais pas, donc c'est une bonne découverte.
Oui, c'est un éditeur très très intéressant, très riche, qui a souvent des propositions très ciblées, qui gagne à être connu en effet.
Ouais, et surtout que ce livre est sorti en 2017 en Angleterre, et il a été finaliste du Man Booker Prize, qui est l'équivalent du prix Goncourt en France. Donc voilà, ça m'a un peu confortée dans l'avis que j'ai eu de ce livre. Alors l'histoire, en effet, elle rappelle le film Captain Fantastic dans le sens où on a un père et ses deux enfants qui vivent complètement en marge de la société. Donc ils se trouvent sur un terrain, une sorte de clairière, ils ont construit eux-mêmes leur maison. Il y a pas vraiment d'époque. On se situe, j'ai l'impression, dans les années 60, mais il y a rien qui en dit plus sur le contexte.
Donc c'est une forme de vie un peu aux marges de la société.
Oui, voilà, et c'est pour ça, moi, ça me rappelle un peu l'univers du conte. En tout cas, au début du livre, on a donc un frère et une sœur qui vivent très très proches de la nature, qui se débrouillent tout seuls, qui chassent, qui pêchent, enfin voilà, qui...
Oui, et vous m'aviez dit que ce qui vous avait intéressé, justement, c'était l'aspect conte.
Oui.
Et
par rapport au titre.
Oui, et puis par rapport à ce que disait le Sunday Times sur le fait que ce soit un conte. Donc quand Hansel et Gretel rencontrent le parrain.
Oui, voilà. C'est ça que vous vouliez me faire dire. Ça y est, j'ai compris. En effet, sur la
c'est
couverture,
ce que c'est
voilà.
Ça.
Il y a une phrase du Sunday Times oui. qui dit quand Hansel et Gretel rencontrent le parrain. Et évidemment qu'on est dans le conte au départ parce qu'on a ce frère et sa sœur, donc qui, et cette sœur qui rappelle Hansel et Gretel. Mais qui rencontre le parrain, évidemment.
Voilà, il y a un petit virage,
un petit changement,
un petit dérapage, comme dirait Arthur.
Voilà. Et on va tourner un peu dans le conte, je ne sais pas comment dire, sinistre, un peu noir.
Voilà, le
parce
parrain,
que
c'est pas...
c'est pas ce qui est le plus joyeux. C'est parce que cette famille, en fait, habite sur un terrain qui appartient à un riche propriétaire terrien. Mmh. Donc, ils se sont un peu appropriés ce lieu et ça ne plaît pas à ce propriétaire qui va, par tous les moyens, essayer de les chasser. Donc, en les intimidant, voilà. Le père, lui, est un homme qui est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant, qui fait des combats pour gagner un peu d'argent, qui fait des sortes de duels en fait. Mm-hmm. Donc évidemment, il va pas se laisser faire. J'en dis pas plus parce
oui.
que
un peu de surprise,
voilà,
un peu de suspense.
J'ai pas envie de dévoiler toute l'intrigue.
Déjà quand on sait avec Clément, on sait quelle est la réponse oui. du Puy-de-Ry à démocratie. Alors,
pas en dire trop. Mais bon, voilà, c'est une lecture qui est. Malgré le côté sombre qui arrive sur la fin, c'est très beau, c'est un texte très puissant, des personnages très intéressants, fouillés, voilà. C'est un très bon premier roman.
Oui, et puis ça a l'air d'être, oui, effectivement, ça prend aux tripes, hein, j'ai l'impression.
Oui,
votre,
parce que
et puis ça monte crescendo, on dirait. Hein.
Voilà, c'est, je veux dire, on part sur un conte naïf. Et on, sans en dévoiler,
on dit pas où on arrive.
on a une montée en violence assez importante.
Cela dit, Hansel et Gretel, c'est déjà à la
oui,
base.
Oui, je crois que c'est pas hyper joli non plus. Mais les contes en général,
la sorcière finit dans le four quand même.
Voilà.
Hein. Donc, elle est cannibale, elle mange même des petits enfants. Donc, c'est pas non plus super, super gay. Mais donc, après, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus.
Plus léger, plus on léger, va dire.
Oui. Et peut-être plus poétique aussi.
Voilà, beaucoup plus poétique, ça c'est sûr. C'est un livre de Gunnarsson, qui est un auteur japonais, non, qui est un auteur islandais, évidemment. Ça s'appelle Le berger de l'Avent. Moi, j'ai découvert ce texte récemment parce qu'il est sorti en poche en novembre aux éditions Zulma. Mm-hmm. Je connaissais pas du tout. C'est quand même un auteur qui a été pressenti pour avoir le prix Nobel, donc c'est pas
oui,
n'importe qui.
C'est pas, oui,
il gagne à être connu.
Oui.
Et là, on est vraiment dans le conte. Bon, ça s'appelle Le berger de l'Avent, donc ça se passe le premier dimanche de l'Avent. Et il y a une postface, d'un auteur qui dit que lui, il le lit tous les ans à cette époque pour se plonger, voilà, dans cet univers un peu magique de Noël. C'est l'histoire d'un berger, de son bélier et de son chien, mm-hmm. Qui vont partir donc le premier dimanche de l'Avent dans les montagnes islandaises pour récupérer les moutons qui se sont égarés et du coup pour éviter qu'ils ne meurent à cause de l'hiver qui est très rude en Islande. Et berger, il est un peu moqué par les autres bergers de la région parce mm-hmm. que les autres bergers laissent tout simplement les moutons égarés
oui.
et ils les laissent mourir parce que pour eux c'est pas si deux têtes en moins c'est pas si important mm-hmm. que ça. Et ce berger tient absolument lui à aller récupérer toutes ces bêtes. Donc ça va être tout son périple à travers les montagnes islandaises. Donc il va braver la tempête, j'ai dit que c'était très léger mais c'est pas si léger que ça en fait. Ça va être un livre, une histoire qui est sur la détermination mmh. et sur le courage. Ce berger a décidé d'aller récupérer ses moutons et il va y aller coûte que coûte. C'est une histoire aussi d'amitié entre le berger et son bélier qui est absolument génial, enfin qui a un tempérament proche du chien. C'est aussi l'histoire d'amitié avec son chien. Donc l'auteur dit, il parle souvent de trinité, donc mm-hmm. pour ces trois personnages.
Oui, visiblement il y a un côté un peu christique parce que
oui,
bon,
oui,
le
oui.
berger qui va chercher tous les
oui,
moutons.
Oui, complètement.
Bon.
Complètement. Ouais. C'est pour ça qu'on est dans le conte de Noël. D'une manière un peu religieuse. C'est un livre qui fait à peine 100 pages, donc qui est très rapide à lire, mm-hmm. qui est une écriture très belle, et voilà, c'est une très très belle histoire.
Ça vous a ému ?
Oui, beaucoup.
C'est cette histoire d'amitié
homme-animal. Avec ce bélier, ce chien. Ouais. Oui.
Ah
non,
oui,
j'ai trouvé ça très beau.
Ça doit être assez ouais. fort, peut-être un peu rude aussi quand même.
Voilà, hein. on reste dans le conte, mais c'est ni naïf, ni...
Donc là, en fait, vous nous avez présenté deux contes qui ont... Ce sont de vrais faux contes. Ça a l'air d'un conte, mais en fait, on est au-delà.
Il y a un côté, parfois violent, parfois un peu noir, oui, qui en ressort.
Eh bien, c'était donc vos choix de la rentrée de janvier. C'est pas facile de choisir seulement deux romans sur la rentrée de janvier.
Parce qu'il y en a plein d'autres qui ont l'air, et qui sont à découvrir et que voilà, je vous en parlerai pour une prochaine émission.
Les prochaines fois. Et puis, bien sûr, à la librairie, vous pouvez donner des conseils de lecture, vous et vos collègues, à toutes les personnes qui viennent les demander. Moi, j'invite les auditeurs donc à aller dans leur librairie préférée pour choisir leur lecture de la rentrée littéraire de janvier. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller consulter aussi le roman de Pascal Rose. Donc nous allons nous arrêter là pour ce mois-ci. Donc merci à toutes les voix et à notre nouvelle voix. Et merci encore aussi à Pascal Rose. L'équipe des Voix du Livre vous donne rendez-vous le mois prochain avec de belles surprises puisque nous ferons un retour sur le festival Tandem qui aura lieu du 13 au 16 février prochain. Donc avec bien sûr Arnaud Catherine, le conseiller littéraire du festival. Il y aura Alice Zénitaire, Lydie Salvert, Jean Materne, donc, et beaucoup d'autres qui seront présents. Et pour tout vous dire, il y aura même, pendant le festival, Marguerite Duras. C'est vous dire qu'il va falloir choisir. Donc, toutes les informations sur le festival Tandem sont disponibles sur le site tandemnevers.fr. Et attention, les places partent vite. À bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.